Merci, retour de l'information à midi. Ladies and gentlemen, vous êtes bien dans la bande originale de votre été avec au menu de ce matin José Garcia, Serge Bozon, Leïla Bekti, Zita Enro, Yann Arthus Bertrand, Pierre-François Martin Laval, connu comme PEF, Cécile et Bernard Pivot et la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti, bel été à vous les amis.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
C'est bon ça.
Tu sais pourquoi?
Alors, ma rencontre avec Antoine Decaune.
Il dit il dit Albert Algout, tu sais pourquoi? C'est vrai? Sur cette chanson?
Ouais, bien sûr. Pendant 6 ans, avant j'étais très très masculin et puis il a fait de moi une femme pendant 6-7 ans. Donc je lui ai toujours dit tell me why. Il m'a jamais répondu.
Et en 89, José Garcia, vous obtenez votre premier rôle au cinéma, c'est dans Romuald et Juliette de Colin Serrault.
Oui. Formidable.
Première fois avec Daniel Auteuil, je faisais un réparateur d'ascenseur.
On les embrasse.
Et ça faisait, quoi, un moment que vous essayiez d'avoir des rôles ou ça?
Ah ouais, ça faisait longtemps. Ouais. Bah déjà, quand je suis arrivé chauffeur de club, ça faisait un bout de temps que j'étais dans le désert. Donc, ça a été très pénible.
C'était dû à quoi, d'après vous? C'est... Parfois, il y a des
âges. Je jouais comme
avec
beaucoup.
Firmin, avec Firmin Richard, c'est ça?
Avec Firmin Richard, ouais. Et puis Colin Serrault, ouais. Non, mais ça faisait... En fait, Colin Serrault était notre marraine. Et on avait fait une pièce à Cartoucherie de Vincennes. Et voilà, elle a décidé de prendre toute la troupe pour faire des petits rôles, quoi. Ce qui était adorable. Je me souviendrai toujours. Grosse impression d'arriver sur un plateau de cinéma.
Une appréhension forte. Grosse appréhension, de pas décevoir Colin Serrault, j'imagine, déjà.
Mais cette espèce de barnum, quoi. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui... Je crois que c'est l'impression la plus terrible, c'est de voir un gros film. Et tout d'un coup, les gens ouvrent les camions et sortent des tonnes de matériel. Et ils installent ce matériel et ils vous disent « c'est pour toi ». Et là, vous avez 100 personnes autour de vous et vous dites « ah la vache, quoi, ça va être... »
Faut pas décevoir.
Oui, voilà, c'est presque plus... Alors qu'on a l'habitude de jouer au théâtre, mais au théâtre, on a l'impression que les gens sont venus, se sont installés. Il y a quelque chose de moins technique, quoi. Donc,
de toute l'organisation en plus. Ouais. Et c'est dans ces mêmes époques, c'est à peu près à la même période, je crois que vous avez commencé à bosser avec Antoine Decaune. Enfin, il vous avait repéré. Et vous êtes devenu son acolyte.
Non, le premier qui m'a repéré, c'est Albert Algout.
Ah bon?
Albert Algout et Carl Zéro. Ouais, c'est les premiers qui m'ont fait travailler. Ah
ouais, c'est bien de citer Carl.
Ouais.
C'est vrai.
C'est Carl Zéro qui tout de suite est venu me voir avec Albert. Ils m'ont dit tiens, viens. Et puis j'ai fait. D'ailleurs, c'était prémonitoire. J'ai fait une pub pour Carl Zéro qui était la première. Ça s'appelait SOS Sentier Battu. Tu as un problème, t'y appelles. Et je faisais déjà un mec genre à Serge Benamou qui arrivait en Porsche et qui faisait comment tu vas et machin et bref. Et c'est marrant. Et après j'ai travaillé d'abord pendant des années avec Carl Zéro.
Et ce salopard, après... il était très très bon.
C'est gentil. Et puis avec Albert, on a fait pendant très longtemps, on a animé la majorette. Enfin, on faisait les majorettes. On a fait beaucoup de très belles choses.
On a été majorettes ensemble.
On a été majorettes pendant des années. On a eu des grands moments de perdition comme ça.
Avec le talent cassé à Cannes.
Et puis des textes savoureux. Moi, je me souviendrai toujours de Thierry Lhermitte qui était venu, je crois, pour, un enfant de la ville ou je ne sais plus quoi, où on a fait. Où je faisais une Samoan et je lui disais quitte à bourrer, quitte à tout mais oui, ça c'était Albert. Et je faisais papa Jean-Jacques et papa Gounard qui m'amourait. Et on faisait une très belle danse tribale. Vraiment des moments que je vous demande de revoir, vous verrez.
En 1989, Serge, vous écoutiez.
Et vous, Serge Bozon, en 89, vous venez vous installer à Paris.
Absolument.
Et vous faites la rencontre...
Faut dire quand même que c'est les Stooges. Quand même, pas n'importe quel choix. On est dans le pointu. Avec Serge Bozon, on est dans le pointu.
C'est vrai. Et vous faites la connaissance d'Axel Roper.
Oui.
Qui ne vous quittera pas, puisqu'elle est scénariste, co-scénariste de tout.
Bah, c'est votre femme, surtout.
Tous vos travaux.
Ouais, enfin, la vie privée, c'est autre chose. C'est la mère de mes enfants et la scénariste. Tout à fait.
Voilà, c'est ça.
La vie privée, c'est autre chose, mais c'est la mère de mes enfants.
Oui, non, mais moi, je précise pas.
Je trouve que c'est encore plus privé de dire la mère de mes enfants, mais bon, très bien.
Nous habitons. Nous habitons au 52 rue de Jouvel.
Nous partageons la même salle de bain.
Les gens ne doivent pas savoir.
43 B26 pour le code.
Au troisième étage.
Au fond de cour.
À l'époque, Serge Bozon, pardon, j'interviens comme ça évite de vous gêner davantage. Quel genre de cinéma vous aimiez?
J'aimais le cinéma américain des années 50, le cinéma classique, disons John Ford, Howard Hawks, Otto Preminger, Raoul Walsh. J'aimais le cinéma français. Enfin, j'aimais un peu ce que j'aime maintenant. J'aime pratiquement tous les cinémas bien de tous les temps, de tous les pays.
Et mais avec une dimension un peu comique ou pas? Je me pose la question en voyant. J'ai vu Tip Top.
Non, pas particulièrement. Enfin, j'aimais les comédies comme j'adorais les mélodrames, comme j'adorais les westerns, comme j'adorais les comédies musicales, comme j'adorais les films noirs. J'aimais plus ou moins tous les genres, ou les films érotiques japonais, ou un giallo italien. Je suis tout à fait ouvert au niveau cinéma.
Mais comment vous êtes tombé dedans? Parce que j'ai trouvé dans une interview que vous lisiez les cahiers du cinéma en CM2, ce qui est quand même une lecture.
C'est complètement délirant. Je ne sais pas qui a dit ça.
Mais non, votre mère.
Je ne lisais pas les cahiers du cinéma en CM2. Par contre, non, c'est vrai que j'étais fan de cinéma depuis très jeune. Je me suis intéressé vraiment.
Comment vous êtes tombé dedans par hasard?
Je ne sais pas. Moi, j'habitais à Rouen, qui est une petite ville de province que vous connaissez peut-être. Mon père, il s'intéressait au cinéma et il faisait des ciné-clubs. Donc déjà, j'y allais. Il y avait une atmosphère qui était assez beau parce que c'était dans les lycées, vous savez, les lycées avec des. C'était lycée avec des femmes. Et donc le soir, quand j'étais petit, je m'endormais sur les cuisses des internes, en fait. Donc, je me souviens que pour moi, le cinéma avait un côté doux, disons, et clandestin, et avec l'idée de bonnes odeurs.
Est-ce que c'était pour plaire aux filles que vous vouliez être délégué de classe, que vous vouliez organiser des séances de ciné-club, et que vous serviez de ça pour être.
Je sais pas, en tout cas, j'ai toujours.
Une espèce d'autorité ou de regard différent?
J'ai toujours été bon élève, peut-être dans le sens irritant du terme, mais délégué en effet, j'étais tout le temps délégué, tout ça, etc. Et en même temps, je faisais tout, vous savez, je faisais la danse classique, qui n'est peut-être pas le truc le plus idéal pour plaire aux femmes.
Enfin, détrompez-vous.
J'ai fait des choses très différentes.
Ouais. Et votre première critique ciné,
oui,
c'était laquelle? Avant d'être professionnel, hein, je veux dire, le
non,
premier
mais
film
j'ai jamais
été vous êtes attelé,
un professionnel.
Non, mais le premier film sur lequel vous avez donné votre avis, très jeune.
Ouais, j'ai commencé à faire la critique, si vous voulez, en cinquième pour moi-même dans des cahiers,
ouais,
évidemment, qui n'ont jamais paru. Et même quand on dit que j'étais un critique, Truffaut a une influence très forte quand il était à Art, il a pu renverser des carrières, il a pu créer des scandales. Moi j'étais dans des revues du bénévolat, comme les du cinéma, des petites choses. J'ai jamais écrit, je sais pas, à Libé, au Monde, aux Erocs, à Télérama. Donc j'ai écrit beaucoup à Trafic, la revue de Serge Danet, ou dans plein d'endroits, mais qui n'ont jamais eu le moindre impact. Ce qui me plaisait, ce que je ne souhaitais pas avoir
mais
du
c'est
pouvoir.
Pas la question, c'est pas ton impact, c'est votre premier cahier de cinquième. C'est quoi le film, le premier film que vous avez regardé? Vous êtes dit, tiens, je vais coucher sur le papier mes impressions.
Je voudrais pas me tromper parce que ça serait un peu tricher de me dire, je me souviens de tout, mais je sais que j'avais écrit sur Sans toi, Éloi, d'Agnès Varda avec Sandrine Bonner. J'avais dû écrire sur du Piala, parce que j'avais été très marqué par À nos amours. Enfin, j'écrivais sur les films qu'on voyait à l'époque, c'était plus du cinéma français, à Rouen, voilà. J'écrivais pas sur des vieux films.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Quand je pense à toutes les deux, Leïla et Zita, je pense à deux soirées pas comme les autres, respectivement en 2011 et en 2016, et c'est vraiment que du plaisir.
La gagnante pour le César du meilleur espoir féminin est... ma petite sœur, Leïla Bekti.
Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Zita Enro dans Fatima.
Bah ça me file la chair de poule de l'entendre tout ça.
Je sais pas vous, mais... c'est pas nous qui avons gagné, c'est-à-dire.
J'ai l'impression que j'ai gagné.
On y est pour quelque chose, quand même.
Physiquement, ça me file la chair de poule. Bah ouais, c'est génial.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer quand on entend son nom?
Ouais, mais c'est exactement ça,
alors,
en fait.
Qu'est-ce qui se passe, les
filles? Non, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, Leïla, c'est que quand j'ai entendu mon nom, je me suis dit... il a dit mon nom. Enfin, il y avait un truc en plus vraiment. Et pour le coup,
ma
je ne pensais pas
plus.
Du tout. Ouais, j'avais tourné avec lui dans Mauvaise foi, le film de Roche Dizem. Mais donc c'est Pascal Elbé qui me l'a remis et que j'adore. Et c'est vrai que j'étais, pour tout vous dire, j'étais tellement pas prête à me lever parce que j'étais persuadée que c'était pas moi. J'avais un problème avec ma robe. Je pense que de toute façon tout le monde l'a vu. Et je me souviens que Géraldine à côté, quand la cérémonie a commencé, elle m'a dit. T'inquiète pas, assise, ça se voit pas. Du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, puisque je vais rester
assise.
Et quand il m'a dit.
Lève-toi.
Voilà, lève-toi. Je me souviens, elle était en larmes, moi aussi, et on se prend dans les bras. Elle me dit que des mots d'amour. On a l'impression que je lui dis que je l'aime et que c'est toute ma vie, alors que je lui dis, regarde ma robe, c'est pas tombé. Donc j'étais entre émotion et peur et tout, et c'était magique.
Ouais, Géraldine Nakache, pour préciser que
oui,
c'est d'accord.
Pardon,
parce que ça fait partie de la famille, vous dites Géraldine, mais bon, pour ceux qui
ne
connaissent pas votre lien, Zita.
Vous avez ressenti quoi?
Moi, j'ai ressenti vraiment une espèce de choc où j'avais l'impression que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression que je comprenais pas mon nom. Je crois que j'ai mis pas mal de temps, en fait, à me lever. Parce que j'étais
comme
vraiment.
Chaos,
oui, comme un chaos en boxe, vraiment sous le choc. Mmh.
Mais vous étiez préparée ou pas?
Mais non, parce
vous
que.
Vous dites pas, alors j'ai une chance sur quatre, enfin voilà.
Bah si, on rêve quand même, on a quand même des rêves, et puis on se dit, bon, une chance sur
quatre ou cinq.
Sur cinq, ouais.
C'est ça,
ouais. Je crois que c'est sur cinq. Mais c'est vrai que. Non, puis en plus, moi, j'étais arrivée à la cérémonie super émue. J'avais fait venir mes cousines chez moi avant. On n'arrêtait pas de pleurer. Le maquillage coulait. Je disais, la coiffure, ça va. J'étais super...
C'était sublime, d'ailleurs.
Merci.
Mais pardon, cette pression-là, vous avez l'habitude de gérer votre image, de vous apprêter, de vous maquiller, de vous coiffer. Enfin, c'est vous.
Par la Danielle,
vous vivez, ouais. Vous vivez dans le monde de l'image. Ouais. Donc vous avez cette habitude-là. Je ne parle pas dans la vie quotidienne.
Non, parce
où,
que,
là, vous
parce
êtes
que très... à l'époque, c'était donc. Moi, ça faisait pas longtemps que j'étais sortie de l'école.
C'est pas la première fois que vous mettiez une robe et vous vous maquilliez pour
une soirée. Oui, mais pour un événement si important.
Alors justement, la pression, c'est quoi? C'est les gens du métier?
Non,
c'est le regard des autres.
C'est d'être à l'aise. Par exemple, c'est vrai que quelqu'un l'autre fois me dit dans la rue, me dit c'est drôle, vous faites ce métier, je vois que vous êtes hyper timide en promo. Je dis même parce que en promo, je me cache pas derrière un personnage. Je suis forcément beaucoup plus à l'aise sur un film, et parce que effectivement, je me rends pas compte que je suis filmée, je suis dans mon personnage. Et c'est vrai que pour des événements comme ça, on a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir jolie. Mais est-ce que jolie, mais on a des questions folles, enfin, c'est absurde. Moi, des fois, je me dis, je fais une couette ou je me laisse les cheveux détachés. Non, mais parce que j'ai fait une couette hier. Donc, et je me dis, mais il y a ma sœur à côté qui me dit. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta couette? Donc du coup, c'est
là qu'on se rend compte que c'est difficile la vie de comédienne.
En fait, c'est vous.
Fondamentale.
Voilà, exactement.
En fait, c'est vous.
Et
quoi.
C'est là. Et heureusement qu'on a des garde-fous et qu'on a des gens autour de nous qui nous disent, ma cocotte, ta couette ou ton brushing.
En même temps, je pense que lorsqu'une comédienne monte sur une scène des César ou des Molières, il doit y avoir des milliers de comédiennes devant leur télévision, pas forcément dans la salle, en train de dire non mais comment elle est habillée, mais c'est quoi cette couette sur la droite, c'est quoi cette couette sur la gauche. C'est-à-dire, il doit y avoir une espèce d'analyse de scan comme ça, mais presque comme des copines pourraient faire le scan de quelqu'un, pas forcément pour être
ou pas
méchant,
forcément des copines.
Moi je sais pas, je pensais pas du tout à ça en
ça
fait.
Peut vanner,
ça
peut vanner,
se sentir bien. Mais comme disait Leïla, en fait, je trouve que c'est le côté quand on peut pas se cacher derrière un personnage parce que c'est beaucoup plus confortable quand même.
Bien sûr.
Et de parler avec ses propres mots, moi je trouve ça très intimidant et en plus.
Donc vous aviez écrit quelque chose ?
Bah non, je m'étais dit, j'ai absolument envie, si jamais ça arrive, de remercier Philippe Faucon, donc le réalisateur de Fatima.
Tu vas pas remercier ?
Si ?
Ah bah si.
Mais non, mais je m'étais dit, faut.
Ah oui, d'accord.
Il y a quelques éléments que j'ai envie de dire, mais après, sinon, le reste, non, parce par superstition. Mais c'est vrai que de parler avec ses propres mots, c'est...
Vous pouvez remercier papa, maman, vos deux frères, oublier l'un des frères.
Moi, je me souviens que j'avais une inquiétude. Je me disais, j'ai peur que ce soit long et chiant. En fait, je trouvais ça très impudique comme exercice. Je me disais, ces gens ne connaissent pas ma famille. Je vais pas leur parler de toute ma famille, mais en plus, j'aurais adoré, parce que je suis très, très...
Famille.
Famille, quoi, c'est un clan. Et du coup, je n'osais pas dire... Bon, alors ma grand-mère.
Mais c'est vrai, mon truc, on a une pression.
Mais quand
moi, je sais que j'ai remercié, mais ça a été du grand n'importe quoi. Et en même temps, tant mieux, parce que j'ai parlé avec mon émotion, mais j'aurais adoré remercier plein de gens. Et d'ailleurs, je vais le faire ici.
Alors,
merci.
Et ça, professionnellement, ça a changé vraiment. C'est-à-dire, le lendemain matin, on est une autre comédienne. On est dans les bankables, on est regardé, on reçoit plus de scénars.
On est mieux maquillé.
Non, c'est pas démaquillé, justement.
Bah, d'ailleurs,
parce que...
j'ai plus besoin de me maquiller depuis mon séjour. Là, là je suis pas maquillée.
Ça, c'est fait.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Tous ces gros animaux et tous les gros félins dérangent les gens qui vivent autour. D'ailleurs, on voit bien pour deux ours qu'on va mettre dans les Pyrénées le débat que ça fait. Et il y a des images qui circulent en ce moment sur Internet d'un idiot qui a payé 15 000 euros pour tuer un lion et poser en photo devant lui. Ce qui me donne de l'espoir, et de ça que je n'avais pas beaucoup dernièrement, c'est ces millions de gens, de jeunes, qui ont été capables de défiler aux États-Unis contre les armes. Si on était capable d'être des millions dans la rue contre les pesticides, ça serait réglé. Quoi. Ce qui a changé depuis ces dernières années, c'est la conscience. Depuis le film d'Al Gore, depuis les années 2000, on sait que c'est en train d'arriver. Mais on vit dans un déni complet. On ne veut pas croire ce qu'on sait. Quand vous avez l'appel des 15 000 scientifiques en janvier, vous avez vu ça, c'était la une du Monde. Moi, j'avais les larmes aux yeux en lisant ça. Parce que quand vous lisez cet appel des 15 000 scientifiques de 85 pays, il parle de la fin du monde derrière les lignes. On vous parle de la sixième extinction sur la planète. C'est quand même énorme ce qu'on entend. Sixième extinction de la vie sur Terre.
Mais vous dites vous-même que le capitalisme est ce qui engendre la ruine de la planète.
Parce que c'est toujours le fait d'avoir plus, de consommer.
Sauf qu'un gouvernement est péniblement capable de gouverner sans ces règles capitalistes. Alors qu'est-ce que... Voilà, moi c'est ça la question que je me pose. On a les politiques qu'on mérite, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est dit ça ?
Qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce que je fais moi ? Est-ce que je consomme moins de viande ? Est-ce que j'achète bio ? Acheter bio, c'est indispensable aujourd'hui parce que bio, c'est 6% du territoire français. Donc, il y a 94% du territoire agricole français où on met des pesticides. Ces pesticides, vous savez, pesticides, herbicides, infanticides, génocides, ça veut dire tuer. Hein. Mm-hmm. C'est très, très, très simple. Donc, quand vous mangez pas bio, ben vous y participez. Vous êtes responsable un tout petit peu, mais vous l'êtes. Voilà.
Sauf que le bio coûte plus cher.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent.
Vous dites dans votre livre qu'il y a toujours malheureusement un agriculteur sur cinq qui se suicide parce qu'ils sont au bout du rouleau.
C'est très difficile de les attaquer.
Qui ne gagnent que 300 euros par mois.
C'est complètement
pour certains d'entre eux.
C'est lamentable. En fin de compte, les métiers les plus importants en France, qui sont infirmiers, instituteurs et paysans, ce sont les salaires les plus bas. C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas.
Et donc, ce qui pourrait aller, c'est de se dire, est-ce que la nouvelle agriculture, respectant la terre, en étant bio, sans pesticides, en respectant les saisons, et sans aller chercher forcément des produits qui viennent d'Australie ou qui viennent d'Amérique du Sud, voilà, et se dire, on peut très bien avoir ces légumes et ces fruits en fonction des saisons. Alors, ok, on n'aura pas de tomates en hiver, mais on attendra qu'il y ait un peu plus de soleil pour manger des tomates.
Les tomates, elles sont pas bonnes.
Oui, en plus, elles n'ont pas de goût.
Un agriculteur qui fait du lait avec du foin, donc il fait ça normalement parce que des vaches elles mangent du foin, c'est normal, c'est un ruminant, touche beaucoup moins d'aide que celui qui le fait.
Donc
c'est politique, ça c'est une faux politique. Mais en même temps, si vous, tout le monde ici, on n'achetait que du beurre et du lait bio fait avec des...
C'est l'interaction des deux.
Il faut être prêt aussi à payer un peu plus cher les produits qui sont des bons produits. Aujourd'hui, le prix du lait, c'est la Nouvelle-Zélande qui le décide. C'est pas normal, ça devrait être décidé ici,
si
selon le niveau de vie des paysans.
Si on payait un centime de plus par litre de lait, les producteurs laitiers seraient à l'équilibre.
Mais faut payer
c'est rien, un centime de plus. Ouais. Le geste politique, en lisant ce livre, simplement en éteignant les appareils qui sont en veille, en réduisant la consommation d'électricité, en fermant l'eau du robinet quand on
se... Ça fait 15 ans qu'on le dit.
D'accord, mais il faut le faire.
Il faut le faire.
En prenant plus de douches et en fermant l'eau du robinet quand on se brosse les dents, en ayant des gestes sur le tri sélectif, en consommant moins de viande, moins de poisson, je dis pas
ça,
plus,
très
du,
important.
Plus
très
du
important.
Tout de viande, plus du tout de poisson, je dis juste moins de viande. Mécaniquement, il y aura moins de demande, donc ils vont se retrouver aussi en se disant on en produit trop, il faut réduire. La déforestation, la quantité d'eau et de pollution engendrée par l'élevage industriel de la viande est plus important que celui des transports.
C'est incroyable.
C'est juste dingue. Ça pollue plus d'élever du bétail que l'on va manger que de rouler avec des voitures diesel ou avec des avions qui volent. C'est quand même dingue.
Sauf que tu vois bien qu'à Paris, les premiers à râler parce qu'on coupe les voies sur berge, parce que tout d'un coup... C'est hyper contrasté dans la façon de se positionner. Il y en a qui vont dire, ok, moi je suis capable d'arrêter de prendre des bains, je vais prendre des douches, je vais faire du tri. En revanche, qu'est-ce qu'on roule mal à Paris ? Ben oui, mais en fait, il n'y a pas assez de transport.
C'est vrai. Et ça pollue plus, parce qu'il y a plus de bouchons et ça pollue plus.
Donc ça veut dire quoi? Qu'on laisse les voies sur berge? Non, mais tu vois ce que je veux dire toi-même sur le sujet,
t'es en colère. Je te dis que ça pollue plus.
Moi je dis simplement qu'il y a les mesures citoyennes, certes, il y a ce qu'on peut faire chacun dans son coin, en effet, ou collectivement.
Ne pas acheter de voiture diesel, par exemple.
Ne plus acheter de voiture diesel.
Mais vous dites que même les voitures électriques, ça va consommer l'électricité, donc ça pose un problème.
Avec ces conneries, arrête.
Arrête, Nagui, c'est pas vrai.
C'est ridicule. Aujourd'hui, il faut savoir que le français moyen consomme depuis 30 ans,
trop
d'électricité. 300% de plus d'électricité. Voilà, donc regarde les appareils électriques qu'on a dans notre cuisine. On ne peut pas d'un seul coup arrêter les centrales nucléaires. Non, rouler électrique, c'est beaucoup mieux que de rouler du diesel qui pollue et qui tue, tout simplement. On sait aujourd'hui que les particules fines tuent. On vient de le découvrir il y a quelques années sur Paris. C'est comme incroyable. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment que les voitures diesel soient interdites dans Paris. Les bus, moi quand je fais du vélo dans Paris, je suis derrière un bus, c'est épouvantable.
C'est
rien faire.
Voilà.
Le coût de la voiture électrique, il n'est pas anodin pour un foyer qui vit, par exemple, en banlieue, qui doit venir travailler à Paris. Là, je donne cet exemple-là parce qu'on le maîtrise tous, mais je dis simplement que là, l'action politique, il faut aussi l'avoir. Donc, comment on encourage et on aide à... Il y a eu un certain nombre de mesures pour acheter les voitures électriques, mais vraiment, quand tu vois le prix d'une voiture électrique et l'argent...
C'est encore trop cher.
C'est hyper cher.
Non, je pense que la Zoé, quand on voit les voitures qui roulent dans Paris, avec des voitures comme assez grosses voitures, il y a comme une proportion de 30 à 40% de grosses voitures.
Je vois pas ce que c'est une Zoé, c'est quoi? C'est
une voiture électrique de chez Renault, qui est géniale.
C'est voilà, combien de place?
C'est un petit peu plus cher.
Toutes les marques vont être obligées d'aller vérifier.
On l'a récupéré avec de la consommation électrique. Par contre, le problème qu'on a, c'est comment charger sa voiture. Parce que dans un appartement, dans un parking collectif, c'est difficile de mettre une prise. Ouais. Voilà. Mais ça va venir.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, mais vous serez encore mieux après Feu Chatterton et L'Oiseau.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse. Je t'ai parlé vague, échoue sans cesse. Là-bas, à présent, l'orage dort sous la grève. Tout corps et tout, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé. Dans le creux de mes pas, reposé, viens là. Le soleil perce l'oiseau gris, de ses raides et doux, rayons comme des aiguilles, et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau gris, de ses raides et doux, rayons comme des aiguilles, et une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se vola-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire arrive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse. Où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus, du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris, de ses raides et doux, rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris, de ses raides et doux, rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Viens que je te mette à briller des l'endroit lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le plaid de tes yeux. Viens que je te mette à l'abri des l'endroit lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le plaid de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
C'était L'Oiseau par Feu Chatterton. Attention, restez sagement près du poste de radio car la rousse très très rousse Alison Wheeler arrive. Tenez, la voilà.
Yann Arthus Bertrand, j'étais hyper stressée à l'idée de vous accueillir parce que vous portez les prénoms de mes trois derniers ex. Alors je pensais que c'était une émission spéciale sur mes échecs sentimentaux, mais Dieu soit loué, c'est vous. Bon, vous avez dû sentir un énorme vide la semaine dernière à l'antenne de France Inter, c'est normal, j'étais pas là, j'étais au ski. Ah là, je suis détendue quelques jours au ski, ça me fait un bien fou à chaque fois, l'air des montagnes, ça fait faire le vide de tout. Ouais, tu fais le vide, c'est grâce à l'absence d'oxygène en altitude. Ton cerveau est moins irrigué, comme si t'avais regardé Énergie 12 pendant 3 semaines non-stop. Le ski, c'est des sensations fortes. La vitesse à laquelle tu descends les pistes, la vitesse à laquelle tu descends ton compte en banque, la vitesse à laquelle tu prends du poids en mangeant n'importe quoi. Car la montagne, c'est aussi goûter aux spécialités savoyardes. Les savoyards, ils te mettent du fromage dans tout. Tu manges raclette au reblochon le matin, fondue le midi, tartiflette le soir. Tu fais des proutes 3 fromages, c'est fabuleux. Heureusement, j'ai honte. Heureusement, pour digérer, il y a le Génépi. Pour ceux qui connaissent pas, le Génépi, c'est un antiseptique, aussi utilisé comme digestif. À ne pas confondre avec le Génépi, qui est une liqueur à base de Gérard Depardieu. Mais le ski, c'est aussi un sport qui comporte des risques. Ah oui, je vous mets au défi d'essayer d'uriner avec une combi intégrale. C'est chaud. C'est aussi le risque de découvrir son partenaire. Le risque de découvrir son partenaire sous un autre jour, de voir son homme, d'habitude si viril, impassible devant le soldat Ryan, pleurer comme une merde avec une stalactite de morve dans la barbe façon de revenante parce qu'il vient juste de tomber du tire-fesse. Et lui, il prend le risque aussi de me découvrir autrement. J'ai des dreads, le visage luisant de crème, une démarche de camionneur, lèvres gercées, ouais, je suis zaze. Elle pardonne pas la montagne, un peu comme les Français à Bertrand Cantat. Le moindre moment d'inattention sur la piste et tu finis avec le fémur dans l'œil ou le bâton planté dans un enfant, c'est l'enfer. D'ailleurs, je trouve que la montagne, c'est une belle école de la vie. Moi, un enfant qui se vautre sur une piste, qui a la jambe en bandoulière et le ski dans la mâchoire, je le relève pas. Bah non, non, faut apprendre mon petit, ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. C'est pas moi qui suis injusté la vie. C'est une vraie jungle, un peu comme le métro parisien. D'ailleurs, tu le reconnais, hein, celui qui te double dans la queue du télésiège au ski. C'est le même à Paris qui veut monter dans la rame alors que tu veux sortir. Suppôt de Satan, tu m'as suivi. Le chétan te guette. Aux enfers des sensibilités des transports, tu iras. Avec les gens qui marchent sur les voies et autres manspreaders et Anne Hidalgo. Excusez-moi, je crois que finalement cette semaine au ski m'a stressé et j'aurais bien besoin d'une semaine au soleil.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Pef, quand je pense à vous, je pense aussi à votre côté sombre.
C'est bien que tu sois venue. Pour Flo, je veux dire. Elle a besoin de toi.
Léa aussi, elle avait besoin de moi.
Nous, on doit continuer à vivre.
J'arrive à peine à survivre.
Faut que t'arrêtes, là.
Mais arrêtez quoi?
Et de vouloir remplacer Léa.
On n'avait pas connu Léa. Personne ne pourrait lui résister.
Je vous demande de faire confiance. Parce qu'à part nous, seul le coupable connaît ce détail.
Vous avez pas envie que ça s'arrête?
J'en peux plus de faire semblant.
C'est un extrait de la bande-annonce de la série policière Disparue sur France 2, dans laquelle vous avez joué le rôle du père d'une ado qui a disparu. Un registre qui vous va aussi très bien. Vous évoquiez tout à l'heure Alison Wheeler qui pouvait tout jouer, même le drame, et que bientôt on la verrait sur grand écran, on l'espère. Mais j'ai l'impression que pour vous c'est pareil. Pourtant on vous connaît que trop peu à mon goût dans ce registre. Est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est par parfois manque d'imagination des réalisateurs qui vous perçoivent moins dans cette tonalité dramatique?
Moi c'est vrai que
répondez.
Non, j'avoue que moi j'ai toujours imposé le burlesque dans mes mises en scène, au café théâtre, au cinéma et tout, mais comme vous le dites, j'espère que ça va donner envie. Disparu, maintenant c'est déjà sorti il y a quelque temps, hein, sur
ça avait
sur
très bien marché.
Maintenant, oui, c'est vrai qu'en France, quand on a une étiquette, peut-être on l'a pour la vie. Alors parfois, j'ai des collègues comme Marina Foïs ou Cadmerade qui, sur un malentendu, grâce à un film qui a eu du succès, paf, basculent et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas le cas. Mais Disparu, ça m'a vraiment comblé.
Comment c'est venu à vous, Disparu?
Pareil, sur un malentendu, c'est-à-dire que la réalisatrice...
J'ai dormi au standard.
Non, mais la réalisatrice Charlotte Brandstrom, comme son nom l'indique, est une réalisatrice qui vient du Nord. Du nord de l'Europe, et du coup elle connaissait pas les Robin des Bois, et elle était vierge de moi quand je suis arrivé au casting, donc elle avait aucun préjugé. Elle a dit c'est lui le meilleur pour le rôle, et la production lui a répondu hors de question, c'est un comique. Et elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle a dit, mais comment ça,
c'est
comique?
Fou,
moi,
ça.
J'ai vu le personnage. J'ai vu le drame. C'est avec lui que je veux raconter l'histoire. On s'est opposé à sa décision et c'est France 2 qui a tranché. Je tiens à le dire parce que c'est grâce à ces gens-là. Mais ça tenait vraiment sur un fil. C'est grâce à ces gens-là qui se sont battus. Ils ont dû se battre.
Oui.
Alors que j'étais leur préféré aux essais parce que on voulait les empêcher de me faire jouer dans un drame. Et voilà, c'est comme ça que ça
donc
se passe en France.
La production ne voulait pas de vous.
Oui.
La chaîne et la réalisatrice, oui.
Oui, mais ils se sont battus, hein. Il a fallu que je repasse des essais. Et moi, du coup, je me suis battu aussi parce que c'était le rôle de ma vie. Alors, attention, j'adore jouer Prunelle, mais j'ai pris un plaisir, mais qui est très différent. Et ça m'a beaucoup remis en question. Ça m'a apporté beaucoup de choses de faire disparaître.
Vous pensez qu'il y a un complot anti-PEUF?
Non. Il n'y a pas de complot. C'est comme ça en France. Aux États-Unis, on peut voir un animateur télé jouer dans un bon film, après chanter une chanson. Ouais. Ça dérange personne. Ils sont pleins de fantaisie.
Ouais, parce qu'ils sont capables de le faire. Il faut
non, en France. Regardez Kad El Shabab, regardez Kad Merad.
Il y a Claire Chazal qui va tourner dans un
meurtre.
Mais
elle a déjà joué dans des
fictions. Fred Testo, c'est aussi cet exemple-là, très souvent associé à Omar dans le service après-vente.
Je suis hyper content pour Fred, par exemple, c'est un très bon exemple.
Ouais, qui arrive sur TF1 à incarner des personnages de fiction.
Oui, mais la télé a beaucoup changé ces dernières années et à la télé, ils sont beaucoup plus ouverts que dans le cinéma.
Ouais.
Et dans le cinéma, moi, mon ex-agent m'a dit, quand je lui disais, mais moi je voudrais bien passer des essais pour des petits rôles dans des films qui n'ont rien à voir avec mon univers, et elle m'a répondu, tu ne fais pas partie de leur famille, PEF. Voilà.
C'est pour ça qu'elle est devenue votre ex-agent.
Voilà. Tout est dit, quoi. Ouais. Tu ne fais pas partie de leur famille.
C'est violent.
Voilà, et donc, c'est comme ça. C'est aussi comme ça que ça se passe dans ce métier.
Et ça vous tenterait, vous, parce que maintenant, vous avez aussi les armes entre les mains, vous réalisez de...
Ah oui, écrivez votre film dramatique.
C'est ce que mon épouse m'a répondu. Elle m'a dit, mais de quoi tu te plains, t'as qu'à l'écrire. Mais
je ne sais pas si c'est un...
Peut-être oui,
un
mais moi, j'adore faire confiance à un réalisateur que j'appelle patron. C'est mon patron qui raconte l'histoire et moi, je suis à son service avec mes émotions, mes sentiments. J'adore cet état. Alors que de jouer dans mes propres films, c'est très compliqué parce que je joue pour moi, donc du coup, j'ai aucun regard. Quoi.
Ouais.
Et vous aimeriez qui comme patron ?
Celui qui a une bonne histoire. Voilà. Non, mais c'est vrai, celui qui a une bonne histoire, ça peut être un inconnu qui va faire son premier film. Peu importe, moi, je suis pas snob. J'adore le cinéma français, mais il suffit de raconter une bonne histoire. Moi, après, je m'en fous du rôle principal. Participer à une bonne histoire, c'est ça. Et Disparu, c'était une très bonne histoire.
Oui, c'était une très bonne histoire, très haletante.
Qui arrive malheureusement à des gens.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes vraiment bien dans la bande originale, mais vous serez encore mieux, croyez-moi. Après le dimanche chanté de Lémi Nanas et Bertrand Belin.
Dimanche, Dolly Midanas et Bertrand Belin dans la bande originale. Mais dimanche moins un égale samedi, et oui je suis bon en maths, le jour de Tanguy, Tanguy Pastureau.
On est là à bavasser, tiens, Sigrid fait nourrir, ah Leïla, comment ça va? Non, pas toi, Leïla Cadeau, on te voit tous les jours, on s'en fout, Leïla Bekti. Ah, Nagui, mais qu'est-ce que c'est, des chaussures vraiment avec des clous comme ça? Enfin, c'est quoi, c'est des castorama? Et on fait comme si la vie était éternelle et qu'on avait le temps de discutailler à la cool, alors que notre existence est aussi brève que le CV de Miss Dominique. À chaque instant, on peut clamser. Donc, carpe diem, comme disait Horace. Aimons-nous vivants, comme disait François Valéry. C'est comme Horace, mais avec du volume au niveau des cheveux et une philosophie plus accessible. La preuve, c'est qu'à tout instant, à partir de ce jeudi, on peut se prendre un bout de station spatiale sur le coin de la tronche, à cause des Chinois, ces gens qui chez nous ouvrent des restos de sushis en se faisant passer pour des Japonais. Je vous explique. En 2011, la Chine lance une station spatiale. Tiangong, hein, ça signifie palais céleste. Nous, si on lance Philippe Etchebest dans l'espace, on lui donnera le même nom. Pendant 5 ans, tout allait bien, les cosmonautes chinois bossaient à la chinoise, hein, c'est-à-dire de 2h du matin à 23h avec pause tous les 4 jours. En 2 semaines, ils avaient bâti 12 bars tabac sur Neptune ouvert H24. Quand Thomas Pesquet est arrivé, il a dit bien joué les mecs. Par contre, moi, je peux pas dépasser les 35 heures, sinon il y a l'URSSAF qui va tomber sur Ariane Espace et bonjour, les pénalités. Quand soudain, fin 2016, la Chine perd le contrôle de la station spatiale. Comme la France a perdu naguère le contrôle d'Ariel Dombal et de Yann Moix, qui depuis sont en roue libre. Xi Jinping, le dictateur timbré, appelle la station, lui dit tu vas te calmer, mais ce qui marche sur les humains, qui sont peureux et lâches, ne marche pas sur les machines. Quand Jean-Pierre Foucault crie à sa lampe à bronzer « Arrête Titine, j'en peux plus », l'appareil bloqué sur le mode raclette pour 12 continue à chauffer. Donc depuis 15 mois, Tiangong tourne sur elle-même à raison d'un cycle complet toutes les 4 minutes, soit la même vitesse qu'Elisabeth II quand elle observe ses 130 chiens en train de se lécher lui-oui dans le jardin. Après, bon, que la station reste à tourner sur elle-même pendant des plombs, on s'en tape. Hein, nos gosses font la même chose sur scène au spectacle de fin d'année de l'école et on survit. Difficilement, bon, enfin on survit. Hein, seulement Tiangong tourne, mais en même temps se rapproche de nous, telle la sangsue du scout à la peau fraîche qui cherche son béret tombé dans l'étang. Et là, entre le 29 mars et le 3 avril, Nagui, on va se la prendre.
Ouais, ouais, mais on ne sait pas très précisément quand ou comment.
Non, ce sont des calculs approximatifs de okay. l'Agence spatiale européenne. Ça peut être vendredi 30 à 18h, ce qui est horrible, parce que ça veut dire que le week-end est foutu. Enfin, si un bout de cockpit vous coupe en deux, c'est pas pour autant que vous payerez demi-tarif à Disneyland. Ou mardi 3, 11h30, Sigrid fera sa chronique, Nagui vous rirait en vous disant quelle belle émission, et encore Pastureau n'est pas passé. Quand, énorme boum, la moitié de Tiangong défoncera le studio, à part si on a Teddy Riner en invité auquel cas on pourra se réfugier sous lui et survivre, on y passera tous. C'est pas le jour où il faut avoir loudoyon. Donc là, la station spatiale est à 200 km de la Terre. C'est peu, c'est la distance qui sépare le gros orteil d'Adriana Carambeau de son bassin. Et elle se rapproche. Alors en fait, je plaisante parce que nous, à Paris, ne sommes pas concernés. Hein, il faut dire qu'en matière de catastrophe, on a déjà eu la nuit du zouk à Berlin. Et la politique de transport d'Anne Hidalgo. Hein, non, selon les calculs, les bouts de la station pourraient atteindre le sud de la France ou la Corse. Donc, à mon avis, la station va choisir elle-même de s'écraser dans le sud de la France parce qu'elle sait qu'en Corse, les mecs vont l'attendre et lui dire tu remontes direct. Sinon, on te fourre 3 pains de plastique dans la porte arrière en diffusant à fond un CD d'Imouvrini. Hein, tu vas pleurer ta mère. Même eux, quand ils chantent, ils se bouchent l'oreille parce que c'est trop fort. C'est donc terrible. Le week-end qui arrive risque de voir Tiangong tomber sur une Nice. Hein, donc si c'est sur Christian Estrosi, ça va parce qu'elle rebondira sur son brushing, mais elle va peut-être tuer le seul type de gauche de Nice. Et dans ce cas, aux élections, il n'y aura même plus besoin de faire de dépouillement. Hein. Normalement, lors de l'entrée dans l'atmosphère, le module devrait se désintégrer en partie, comme la carrière de Jean-Vincent Placé avant lui. Mais les moteurs qui font 100 kilos hein, vont eux tomber au sol, c'est sûr. Donc à part si c'est sur un salon du tuning, où les types diront « Dieu, à toi qui nous offre ce moteur, nous dédions ce morceau de DJ Bobo, que Patrick va mettre sur ses enceintes pionnières 4x 1000 watts, bah ça va plaire à personne. Alors à noter que le 27 janvier dernier, le deuxième étage d'un lanceur Zénith s'était déjà écrasé au Pérou. Hein, le truc avait pris feu une fois au sol, il avait fallu que 300 lamas se relaient en crachant dessus pour l'éteindre. Hein, chez nous, ce sont les mecs qui font des jogging qui font ça. Alors il n'y avait pas eu de victime, hein, forcément le Pérou c'est vide, mais le sud de la France c'est blindé de monde. Il y a des vieux, des cagoles, des gitans, des caniches et le rappeur Jul. Or un caniche qui disparaît, ce serait une perte pour la musique. Bref, à cause de la Chine, infoutu de maîtriser Tiangong, fabriqué sur place par des types qui ont reproduit en 2 heures sur plan la Station Spatiale Internationale avec 4 tôles et 16 vis, on risque nos vies. Alors, chers auditeurs du Sud, ne faites pas confiance à Evelyne Delia. Ce week-end, ça va peut-être tomber et ça va faire très mal. Restez chez vous.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille.
C'est cette chanson qui vous a donné l'idée du prénom de votre
fils ? Non, pas du tout. Non, avec avec mon épouse. On aimait bien son prénom Cécile, mais la chanson de Nougaro est superbe. Elle est magnifique. Donc c'est une très très belle chanson.
Et 66, c'est la naissance de Cécile.
Voilà.
Dans un monde de livres, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, avec un père qui lit toute la journée, qui dévore.
10 heures par jour.
C'est fou. Toujours ce rythme-là, Bernard Pivot ?
Bah oui, du temps de la passion de culture, c'était obligatoire. Alors je pense qu'il y a des gens plus doués que moi qui auraient pu faire peut-être une aussi bonne émission en lisant plus rapidement ou moins longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais un petit côté besogneux, il faut bien le reconnaître, comme ça. Et pour faire une bonne émission, pour être assuré...
À quelle vitesse d'ailleurs vous lisez ?
Mais lentement, parce que je prenais des notes, donc je soulignais, je laissais rien passer, et je lisais même les notes de bas de page dans les essais, parce que très souvent dans les notes de bas de page, on trouvait les questions les plus perfides.
Ouais. Et à quel moment, vous Cécile, vous vous êtes rendu compte que tous les papas ne lisaient pas 10 heures par jour et toute la journée ? Parce que j'imagine que quand on est dans cet environnement, on se dit que c'est la norme ?
Oui, absolument. Vous dites que tout est la norme quand vous êtes un enfant, hein, quoi que vous viviez. Donc, je ne sais pas à quel moment je m'en suis rendu compte. Je ne peux pas vous dire, parce que moi-même, je me suis mise à lire. Dès que j'ai appris à lire, j'ai commencé à beaucoup lire. Donc,
il n'y a pas eu besoin de contraintes, c'est-à-dire que vous étiez naturellement
lectrice. Pas du tout. Non, vraiment, j'ai appris à lire. J'ai trouvé que c'était merveilleux et tout de suite, j'ai passé ma vie dans les livres.
Ça, c'est une belle réussite aussi, j'imagine. Ça doit être une belle réussite quand
on est
père.
Oui, la transmission. J'ai probablement pas été le meilleur des pères, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, j'ai été quand même cette réussite extraordinaire, c'est d'avoir fait que ma fille est devenue une excellente lectrice.
1975, vous écoutez.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu. Le grand ridé, le mont pelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi.
Bernard
La playlist de la semaine, Bernard.
C'est bio, non?
C'est génial.
Mais c'est pas vegan, hein, par contre.
Pourquoi cette chanson, Bernard, en
75? Parce que, je me rappelle, c'est une des plus belles chansons, des plus amusantes de Pierre Perret. Alors, Pierre Perret, non seulement c'est un ami, mais j'ai toujours adoré ses chansons un peu grivoises et gauloises. Et celle-ci est une réussite parfaite, absolument. Alors, ça a fait un peu scandale à l'époque, bien entendu, mais
elle n'était pas interdite.
Non, elle n'était pas interdite. Non. Alors que par exemple, les jolies colonies de vacances avaient fait un scandale absolument épouvantable, parce qu'on s'en prenait à une institution, les colonies de vacances, à l'époque. Est-ce que le zizi n'a jamais été interdit? Mais en même temps, elle choquait
un petit peu. Le zizi est une institution.
Non, enfin, regardez les paroles, elles sont quand même d'une truculence assez remarquable.
Mais parce que tous les garçons attendent de reconnaître le leur. Ils écoutent en disant, je suis lequel dans la liste?
C'est le petit joufflu ou le...
Je te le dirai pas. Non. No comment.
Et en 75, Bernard, vous créez avec Jean-Louis Servan-Schreiber le magazine Lire.
Oui, qui existe toujours.
Toujours, absolument. Alors qu'est-ce qui fait que tous les deux vous avez décidé de vous unir pour...
Bah, c'est une idée, c'est la sienne. Hein, c'est la sienne. Et un jour, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit voilà, quand j'ai quitté le Figaro littéraire, on pourrait créer une revue ensemble. Donc, nous étions très différents l'un de l'autre et en même temps très complémentaires. Lui, c'était un vrai manager. L'imagination des revues à lancer et puis moi je m'occupais du contenu, donc on a, et puis Lire a été tout de suite une réussite et maintenant le journal continue.
Est-ce qu'à l'époque on lisait davantage?
les gens, ouais, le public, ouais. Je sais pas.
Je
trouve que ça, les gens lisent beaucoup encore. Je vois dans le métro, moi, plein de gens qui lisent, des jeunes, des vieux, des. Je suis pas pessimiste.
Oui,
sur
c'est
la
ça,
lecture.
Parce qu'on entend souvent des discours disant que les jeunes lisent de moins en moins, que les actifs également, et oui, que finalement non, la lecture devient.
Ils lisent moins de romans, je pense, les jeunes. Les jeunes lisent moins de romans, mais ils lisent utile, je pense. Voilà.
C'est quoi lire utile?
Ça veut dire qu'ils lisent plus pour leurs études, je pense. Voilà. Le roman, oui, ils lisent moins de romans. Ça, je veux bien croire que les jeunes de entre 20 et 25 ans.
Quoique maintenant, il y a le roman aussi pour les young adultes. C'est une sorte de mouvement dans la littérature qui est destiné à des 15-25 ans parce qu'il y avait aussi là un public qui marche
bien, tout à fait.
Qui n'est pas la littérature la plus reconnue.
Non, mais ils lisent.
Ils lisent. Voilà. C'est ce qui compte. C'est ce que vous dites aussi.
Moi, je pense que c'est ça qui compte.
Cécile a observé ceci qui me paraît très juste, c'est que les enfants en bas âge lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup. Il n'y a qu'à aller voir dans les bibliothèques, on voit les enfants assis qui lisent ça. Et puis, à un moment, ça s'arrête.
C'est vrai.
Et Cécile a très bien remarqué, c'est quand on leur donne un smartphone. Ouais, à ce moment-là, c'est fini.
C'est fini. Enfin, c'est compliqué. C'était rigolo. À Livre Paris, le vendredi, il y avait beaucoup de scolaires. Et c'était flagrant. Les petits, alors ils regardaient les livres autour d'eux, ils se baladaient dans les allées. Et les lycéens, ils se baladaient, pareil, dans les allées, sauf qu'ils avaient le nez comme ça sur leur portable, en fait. Voilà. C'est fini. C'est fini.
C'est un peu triste. Ouais.
Voilà. Mais peut-être qu'ils lisaient des livres numériques.
Les ados, moins.
Non. T'étais dans tous les téléphones. Non, les livres numériques, c'est quand même pas le même rapport à, je sais pas,
c'est pas le même papier.
Non, mais la page, l'odeur, l'objet.
Oui, après, si au fond l'intérêt c'est de lire, peu importe le support.
Absolument.
Voilà. Non, donc bon, il y a les nostalgiques. On a chacun ses préférences, oui, mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique de partir en vacances avec juste une tablette dans son
c'est
sac à main ou
50
bouquins.
Et puis lise. Voilà, c'est très bien aussi.
Cécile a quelque chose de très pratique, une bonne idée pour partir en vacances. Elle part en vacances avec des livres, elle revient, elle s'arrête à Lyon, elle dépose les livres chez papa et elle rentre beaucoup plus légère.
Moi, je les abandonne dans les hôtels aussi souvent.
C'est vrai.
Je les laisse dans l'hôtel. Là où j'ai fini de lire un livre, je laisse à l'hôtel. C'est comme les magazines, une fois que tu as fini de les lire, pourquoi les ramener? Tu les laisses dans...
Ah non, moi je ne sais pas me débarrasser d'un livre.
Ah
non,
moi,
que j'ai
du
aimé.
Mal aussi.
Ah ouais, non, c'est
Si c'est un poche par exemple, moi j'ai pas de
scrupules.
Ah non,
c'est complètement égal que ça soit un poche ou
si c'est un poche, j'abandonne moi.
Même les livres que vous avez aimés.
Même un dépliant, même un prospectus, je le garde.
Oui, parce que je me dis que c'est l'occasion de donner à quelqu'un la possibilité de rencontrer ce livre. Alors je le laisse.
C'est bien, vous êtes très généreux.
Mais elle fait pareil, avec ses fiancés aussi.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Qui a envie de rire? Ah, ça tombe mal. J'ai que Guérémy Crédville à vous proposer.
Comme moi, vous avez la désagréable sensation d'avoir Nagui dans les oreilles une heure plus tôt. C'est à cause du changement d'heure, et de Nagui aussi. Sans changement d'heure, il serait 10h30, et sans Nagui, on aurait des questions plus courtes. Ce week-end, j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre, des Français donc, dire « Ouais, et c'est fou ça, quand on se plaint, le dernier mot de la phrase est toujours plus long. Hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, et le chômage, et on a eu une heure de sommeil en moins. Moi perso, je me suis couché 2 heures plus tôt, j'ai dormi une heure de plus. » Oui, j'ai plein d'astuces quand il s'agit de dormir, je suis MacGyver. MacGyver? Non, MacGyver, tiens, qui a mis un dé? Mais bon, MacGyver sans la coupe mulet. Hein. L'autre, il est capable de faire une bombe avec un trombone et un chewing-gum, mais il est pas foutu d'avoir une coupe de cheveux présentable. Tu me diras, moi non plus. Moi, j'ai choisi de ne pas changer d'heure, ce qui m'a permis d'avoir 20 minutes de retard ce matin, tout en arrivant 40 minutes en avance. Puis, on proteste pour un décalage d'une heure, mais en Chine, à l'heure où je vous parle, ils ont 6 heures de plus par rapport à nous. Et on n'a entendu aucun Chinois dire « Oh !» J'arrête là, je frôle. Le changement d'heure, ça dure depuis 42 ans, soit la moitié d'un mandat en Angola. À la base, ça sert à faire des économies d'énergie, sauf qu'avec les avancées technologiques, c'est comme le testicule droit d'Albert, ça ne sert quasiment plus à rien. Et n'en déplaise à certains, j'ai employé le mot testicule à l'antenne de France Inter, parce que j'en entends déjà me dire « Ouais, il a dit testicule à l'antenne, en plus le droit, France Inter c'est censé être de gauche, et il y a des gens qui meurent de faim, mais c'est quoi le rapport ?» Bref, pour en revenir, à l'heure d'été, les ampoules basse consommation font que l'économie réalisée grâce au changement d'heure est de moins d'1%. C'est toujours plus que le score de François Asselineau au présidentiel. Ouais, je me mets à l'humour politique, tremble Anne Romanoff. On ne nous dit pas tout. Rire. Les ampoules. Les ampoules basse consommation, c'est cette merveille technologique grâce à laquelle il fait toujours noir dans la pièce 6 minutes après l'avoir allumée. Moi, j'allume toujours vers 16h pour être sûr d'avoir de la lumière le soir. Finalement, Leïla, c'est un peu notre ampoule basse consommation à nous, un peu lente à l'allumage, mais elle nous coûte pas cher.
Bravo.
Le changement d'heure, bonsoir. Le changement d'heure, ça sert juste à faire mourir les vieux. Et là, les chevaliers du fiel se disent « Merde, notre fonds de commerce !» C'est prouvé. Les chronobiologistes observent une augmentation des AVC et des problèmes cardiaques dans les jours qui suivent le changement d'heure. Je m'inquiète fortement pour Daniel et pour les trois quarts des personnes présentes dans le studio. Souriez les gars, c'est peut-être la dernière fois. Ce sera la première fois que je vous verrai sourire pendant une de mes chroniques. Le Parlement européen doute de la pertinence du changement d'heure. Moi, je doute de la pertinence du Parlement européen. Notons que le mot Parlement a un sens évident. Bref. Le Parlement, en février dernier, a failli voter la suppression du changement d'heure. C'était sans compter la ferveur d'Olivier Fabre qui milite pour des apéros plus longs. Et c'était son argument majeur et c'est passé. Les députés se sont regardés, ils se sont dit « Ah oui merde, attends, c'est pas con ça, une heure de soleil en plus et une heure de plus de bière en terrasse. Mais enfin, mais il y a des vieux qui meurent de problèmes cardiaques. Et oh Didier, plus de bière en terrasse. Ah putain, ouais, j'avais pas compris, t'as raison, faut bien mourir de quelque chose. Allez, c'est moi qui rince, on dira que c'était un repas d'affaires. » En tout cas, une chose est sûre, les heures, elles, peuvent changer, mais les hommes, on les changeront pas. Allez, bon apéro à tous.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Bon, faut être honnête, on est pas mal jusque-là. Mais j'ai encore mieux, bien mieux, il y a moi. Attention ! Aïe, 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 ça fait mal ?
C'est une fessée ?
Mais c'est bon. Non, c'est en tout cas le message qu'essaye de faire passer le film 50 nuances de gris, la trilogie sadomaso qui a fait frissonner des millions de spectateurs à travers le monde. Eh bien, figurez-vous que pour certains, ce film a déclenché bien des curiosités. Tout récemment, le community manager des magasins d'articles de sport Decathlon a annoncé que grâce à la saga 50 Shades, 50 nuances, ses ventes de cravaches avaient explosé.
Non.
Eh si, il a annoncé ça en début de semaine. Si ça se trouve, vous ne le savez pas, mais grâce au cinéma autour de vous, parmi vos proches, il y a plein de nouveaux adeptes des pratiques SM. Le sympathique facteur qui chaque matin apporte les lettres et les colis. Si ça se trouve, quand il arrive chez votre voisin, c'est radicalement différent. Bonjour madame, c'est le courrier. Silence ! Mets ce baillon sur ta bouche, vilain facteur, et retourne-toi. Silence ! Alors, il est où pour commander ? Mon colissimo, t'en as fait quoi ? Petit salaud, va ! Oh là 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 là, et moi qui croyais que tout ça s'était passé et que c'était dans mon imagination. Autre exemple, vous croyez qu'il se passe quoi pendant la garde à vue de Sarkozy hein? Vous croyez qu'il s'est passé quoi la semaine dernière?
Alors Nicolas, tu l'as financé comment ta campagne de 2012?
Mais puisque je vous dis que c'est les adhérents de l'UMP qui m'ont donné de l'argent.
Ah ouais?
Oui, ça pique. Qu'est-ce qui transportait les valises de cash? C'était Jean-Claude. Claude, pardon. Claude qui? Je sais plus. Aïe, c'est trop bon, encore. Quoi? Je sais plus. Dis-le-moi, sinon je te cogne plus. Oui, Claude Guéant, c'était Claude Guéant. Allez-y, pitié. Encore un petit coup de cravache.
Tu vas signer tes aveux?
Oui, tout ce que vous voulez. Allez-y encore, c'est bon. Oh, oui. C'est bon, alors? Vive Kadhafi, longue vie à Balkany. Ici même, j'ai assisté, je peux vous le dire maintenant, je m'en fous, à des scènes incroyables.
Nagui.
Comment?
Nagui?
Maître Nagui, espèce de chien de rédacteur en chef.
Pardon, Maître Nagui, tenez, vos fiches pour l'émission.
Tu te fous de moi?
Non, pourquoi?
C'est quoi ces ratures dégueulasses?
Oh oui, Maître Nagui, allez-y, je l'ai bien cherché, mes coups de cravache. Je ne suis qu'un rat d'égout, je ne vous mérite pas. Je vais refaire vos fiches, Maître, je vais les refaire mon propre, mais...
Mais quoi, chien?
Pétez-moi la gueule, je ne suis qu'un pourceau. C'est bon.
Un truc à vous dire, il n'y a pas de mal si c'est entre adultes consentants, et même sans consentement, si c'est avec un stagiaire.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est terminé pour aujourd'hui. Un meilleur réalisé par Marie-Annick Rimbaud. La bande revient dès lundi, en direct, en vrai, même studio, même endroit, même heure. En attendant, Move Your Body sur Parquet Courts et Wide Awake. We'll be right back.
Et merci Daniel Morin, c'était le dernier best-of de l'été. Vous retrouverez Nagui et toute son équipe pour la rentrée de la bande originale dès lundi avec Anna Girardot et Nicolas Duvauchel.